RCF.
Nous fêtons cette année le centenaire de la naissance de Jean Sullivan. Né en Bretagne en 1913, Joseph Le Marchand, de son vrai nom, devient prêtre en 1938. Il exercera comme professeur de français, éducateur, mais c'est le cinéma et la littérature qui le passionnent. À la fin des années 60, il obtient de son évêque de se consacrer entièrement à l'écriture. Il publie alors une trentaine de livres sous le pseudonyme de Jean Sullivan. Sullivan plaidait pour un christianisme d'intériorité et disait parler pour les petits chrétiens d'incertitude. En quoi sa parole peut-elle nourrir notre itinéraire spirituel? C'est ce que nous allons essayer de comprendre cette semaine en compagnie de Joseph Thomas, philosophe, président de l'association Sullivan 2013. Joseph Thomas, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, bref portrait, Sullivan, un homme breton, écrivain, chrétien?
Tout à fait. Une figure enracinée en Bretagne dans une première partie, puis nettement parisienne et je dirais universelle. C'est un homme qui s'est totalement investi dans la littérature comme sa patrie d'incarnation à même de pouvoir rejoindre les hommes d'aujourd'hui.
Un parcours original, hein. S'adonner à l'écriture complètement. Il était édité chez un grand éditeur, Gallimard. C'est pas rien.
Il travaillait chez Gallimard. Il était directeur de collection. C'est un grand nom de la littérature et un homme pétri d'humanisme et de vérité chrétienne.
Est-ce que c'était un homme de prière, puisque c'est notre thème hein, de cette semaine?
Ah, je dirais oui et non. Si on pense la prière dans les formes rituelles, on pourrait dire qu'il est quelqu'un qui semble avoir abîmé, cassé, critiqué les formes traditionnelles. Mais j'aime relever qu'il est l'homme du cœur de la prière. Il disait d'ailleurs qu'en latin, prier se dit précaré. Et il reconnaissait dans ce mot précaré ce qui a donné la précarité. Prier, être d'une précarité, je dirais, substantielle. C'est tout lui, c'est le cœur de la prière.
Oui, donc être priant, c'est accepter une précarité. Le pauvre accepte de dépendre.
Et il disait, il faudrait que l'Église devienne ce qu'elle est vraiment, une demeure de pauvres. Je trouve que c'est le plus beau nom de l'Église.
Il écrit aussi, prier, c'est avouer que l'on a faim.
Ben, c'est l'autre manière de dire la précarité, la faim, le creux, en particulier dans son dernier roman, « Quelque temps de la vie de Jude et compagnie », il aimait bien nommer la compagnie des clochards. Il écrit quelque part « J'écris pour le clochard que vous portez en filigrane ». C'est tout lui. À travers la figure du clochard, c'était ces êtres qui sont dans la capacité à mendier leur existence, à dépendre. S'il y a bien un sens profond de la prière, c'est cet état de dépendance.
Mais qui peut faire peur à beaucoup de monde. On n'aime pas dépendre, généralement. On veut être maître de sa vie.
L'un n'empêche pas l'autre. L'autre mot qu'il aimait, c'est le mot de être libre et souverain. Ça semble s'opposer. Et pourtant, ce sont les deux parties, les deux colonne sur lesquelles il s'appuyait, être à la fois et durer dans une précarité substantielle, c'est-à-dire jamais je ne suis totalement mon propre maître. Quelquefois, on a le sentiment qu'il fait presque une équivalence entre Dieu et la mort, curieusement.
Mais c'est-à-dire
oui, parce que la mort, c'est la dépendance la plus radicale qui est notre horizon. Et là, c'est le lieu où je sais que je ne suis pas maître de ma vie jusqu'au bout. Ça n'empêche pas d'avancer dans la vie, libre et souverain, créateur. Il n'y a rien de plus joyeux que l'itinéraire de Sullivan. Il parlait certes de la précarité, mais en même temps, de l'allégresse d'une vie qui peut mener son existence dans l'inventivité, dans la création, la joie torrentielle dont il parle volontiers, elle est l'horizon aussi de cette vie simple, joyeuse, bénie.
Joseph Thomas, nous parlons avec vous de Jean Sullivan, qui écrit « Prier, c'est entrer chaque jour dans la vérité de la mort ». Alors, on revient à ce que vous disiez sur la mort. C'est quand même assez curieux, cette expression de Sullivan.
Oui, la mort, c'est autre nom de Dieu, disait-il. Il avait fait, à plusieurs reprises, au moins deux fois, une expérience radicale de dépendance à la suite d'accidents. Je pense qu'il a connu une expérience de coma et de proximité de la mort et ensuite d'allégresse intérieure de cette vie retrouvée et retrouvée différemment. Le parcours de Sullivan, il est constamment à la frontière de l'expérience intime. C'est avant tout une subjectivité, Sullivan. Quelqu'un qui se cherche, qui écrit, qui éprouve, qui expérimente, qui se libère, qui s'agrandit et qui atteint petit à petit une vie réconciliée qui lui permet d'atteindre sentiment d'urgence de la vie parce que la mort est l'ultime, ce contre quoi on bute, certes, dans une incertitude et dans un inconnu, aucune vérité certaine sur l'après-mort. Chez Sullivan, il n'en parle pas, mais une certitude de pouvoir avancer dans une allégresse simple et vitale.
Vous voulez dire que le fait d'avoir frôlé la mort met en valeur de manière extrême le fait d'être vivant et la joie de vivre au jour le jour et de pouvoir... vivre, marcher, c'était un homme qui aimait beaucoup la réalité concrète de la vie.
Absolument. Il est resté jusqu'au bout ce paysan, je dirais, ou cet enfant. Qu'est-ce qu'il faut du temps pour réhabiter son enfance? Et jusqu'au bout, il a expérimenté cette proximité des éléments, ce caractère concret. Une formule qu'il aimait bien, l'invisible est dans le sensible. Non pas un invisible qui soit un ailleurs et un au-delà, mais une présence à la réalité vivante, à la réalité vécue, à ce corps à même de rencontrer l'autre visage à visage et à cette liberté qui puisse avancer précaire. C'est un joli mot que précaire. De cette précarité simple de celui qui sait qu'il restera un peu à l'image des psaumes, comme ce mendiant à même de se recevoir et de s'inventer.
Jean Sullivan fait l'éloge du mendiant, du pauvre. Il veut vivre d'ailleurs ce manque. Et en même temps, il critique beaucoup ceux qui veulent remplir. Et ceux qui veulent tout combler, ceux qui veulent donner des définitions très exactes, par exemple sur le divin. Il a souffert, je crois, d'un catéchisme qui avait réponse à tout, il en parle souvent.
Bon, il faut voir d'où nous venons. Il est breton, il a connu ce dogmatisme enseigné à travers le catéchisme par questions-réponses, la production des années 47-48. C'était complet, c'était impeccable. Il fallait savoir par questions-réponses et on apprenait, on était puni éventuellement. Il rapporte des épisodes dans ce sens. Donc, il a connu ça, mais je pense que la rencontre de Zindel l'a défait du dogmatisme ancien et l'a amené à réinventer une voie de mise en question des principes qui construisent par l'extérieur les gens pour les amener à habiter leur source intérieure.
Oui,
Sullivan, c'est l'homme de la source.
Il faut rappeler que Maurice Zindel, prêtre suisse, avait essayé de creuser la notion d'un Dieu pauvre, de la petitesse et à la fois tout-puissant, mais dans ce paradoxe-là. Et donc, Sullivan va être influencé par lui.
Sullivan est très nettement influencé. Il est pétri, il est habité de cette image d'un dieu désarmé qui est la révolution chrétienne. Et plutôt que de s'appuyer sur des édifices métaphysiques avec les constructions aristotélicienne et autres, lui, il plonge dans la rencontre avec ce dieu désarmé, pauvre, qui, du coup, ne vient plus contrer cette recherche d'une liberté qui est tout le sens de l'athéisme contemporain, mais au contraire, c'est cette rencontre d'un dieu pauvre qui vient susciter la liberté et l'inventer à inventer sa vie et à être créateur à son tour.
Très rapidement, on peut dire qu'aussi ça se situe à un moment clé du XXe siècle, l'après-guerre, où ce qui s'est passé avec la Shoah a complètement fait tomber aussi les images d'un dieu tout-puissant.
Ce qui a beaucoup servi Sullivan, c'est la rencontre de Nietzsche au niveau littéraire. Comme Sandel d'ailleurs, des hommes qui ont été en dialogue avec cette critique radicale du dieu tout-puissant extérieur à l'homme, laissant dans l'indifférence cette déréliction absolue de la Shoah. Pas d'autre parole aujourd'hui que cette attention au Dieu pauvre qui renverse toutes nos certitudes, mais qui nous invite, qui nous lève.
Joseph Thomas, nous avons vu avec vous que Sullivan est un homme qui aime la pauvreté. Il écrit « Je ne sais pas ce qu'est Dieu, mais je sais ce qu'il n'est pas. Il n'est pas ce qui me contraint. Dieu ne m'en met pas plein la vue. » Qu'est-ce qu'on peut dire de cette citation ?
Bon, alors Sullivan est bien au cœur de cette génération, la sienne, qui sent qu'il y a eu tant et tant de pesanteurs reçus de l'extérieur qui ont ligoté les consciences, qui ont empêché la créativité. Il est sensible à ça, à cette manipulation qui fut quelquefois d'une institution tellement assurée d'elle-même qu'elle en imposait à tous sa loi sans chercher suffisamment à susciter les libertés.
C'est ce qu'il appelle vouloir cultiver l'intériorité, ce Dieu-là doit aider à ce que chacun trouve une voie en lui et que ça ne doit pas venir de l'extérieur ?
Peut-être parce que lui-même a vécu ce dégagement. Il a été longtemps un prêtre à l'intérieur de l'institution. Il a œuvré, il a créé, il a cherché à animer.
Dans le diocèse de Rennes,
dans
notamment.
Le diocèse de Rennes, à travers l'enseignement, à travers l'accompagnement de l'Action catholique, à travers la création d'un espace culturel, cinéma, conférences et journalisme. Il en faisait partie et il s'est rendu compte à un moment qu'il y avait quelque chose de faux dans une volonté de structuration par l'extérieur. Et ce qui l'a conduit à chercher en lui-même à se dégager d'un conformisme et d'une notoriété aussi. Il voyait bien qu'il s'était lui-même installé dans une sorte de posture de notable
religieux,
tout à fait confortable. Il aurait pu durer là-dedans. Et c'est la rencontre et la confrontation avec la pensée contemporaine. Il s'est investi très librement à l'université de Rennes pour apprendre et se confronter à Nietzsche, à Kierkegaard, donc aux auteurs qu'il amenait à découvrir une vérité beaucoup plus intime.
Et il dit, c'est intéressant, mais écoutons les personnes athées parce qu'elles ont des choses à nous dire sur notre façon d'être chrétien.
Sullivan n'a fait que ça. Il était devenu vraiment un vrai passionné du cinéma à l'époque de Truffaut et d'autres. Donc c'est une oreille très ouverte à la sensibilité contemporaine et aux questions spirituelles de la sensibilité contemporaine. La culture est pleine d'interrogations. Dialoguer avec Nietzsche, comme il le fait, c'est dialoguer avec son âme profonde.
Pour Jean Sullivan, c'est la croix qui balaye toutes les images accumulées sur Dieu, notamment les images de toute puissance. Qu'est-ce qui fait qu'il comprend qu'on peut se tromper de Dieu ?
On s'est trompé de Dieu lorsque on a cru qu'il suffisait de construire un édifice métaphysique appuyé sur...
Des concepts ?
Sur les concepts, oui. Bon. En effet, il y a une présence de la croix comme étant ce qui vient interpeller la rationalité et ficher en quelque sorte la folie de Dieu au cœur de la raison. Et dans ce cœur-là, recevoir le renversement de nos certitudes, non pas pour quitter toute croyance, au contraire, pour rencontrer le cœur de la croyance, l'abaissement de Dieu qui nous invite à nous lever en liberté.
Jean Sullivan déplore le fait que la religion et ses dogmes aient alourdi Dieu, Joseph Thomas. Il écrit « Le christianisme est devenu tristement raisonnable. Comment, dans nos vies spirituelles, retrouver alors la folie de l'évangile ?»
Il dit encore « Dieu est encore le pauvre qui va sans bruit dans l'herbe du monde. » C'est dire la même chose. La possibilité de vivre le présent comme une interpellation faible, se laisser défaire des certitudes, consentir à une mise en question et un doute. Mais j'aime bien la formule qu'il propose. Moi et mon doute, nous sommes en Dieu. On chemine, on avance. Sullivan, on l'a pris pour un contestataire, quelqu'un qui vient avant tout se moquer et renverser les certitudes traditionnelles. Quand on le fréquente, en particulier dans « Itinéraire spirituel », qui est son dernier ouvrage et celui avec lequel on peut encore largement cheminer, il est habité par une simplicité, une humilité, une joie d'être, une invitation au présent et à reconnaître le Dieu pauvre dans le visage de chaque rencontre. C'est un homme de la rencontre, c'est un homme de l'amitié, c'est un homme de l'humilité. Malgré tout ce qu'on a pu dire et ce qu'il montrait, je crois qu'un jour, quelqu'un lui avait dit, comme ça, dans une boutade, lors d'une conférence, « Monsieur Sullivan, êtes-vous humble ?» Ça l'avait désarçonné. Il n'avait pas répondu dans un premier temps. Et puis, il avait su après trouver les mots en s'appuyant sur son propre parcours et en particulier sur les mots pauvres qu'il avait dû trouver à l'occasion de la mort de sa propre mère. Et en rejoignant ainsi celui qui l'interpellait au niveau du plus simplement humain, il avait à nouveau pu dire « Oui, je suis humble de cette humilité biologique de ceux qui savent qu'il y a des questions mystérieuses et que la mort est en particulier cet imparable qui est le mystère qui nous devance, qui nous englobe et dans lequel nous apprenons peu à peu à entrer en nous laissant défaire de toutes nos certitudes, mais en cheminant humblement à la rencontre du Dieu qui m'interpelle dans le visage de l'autre.
Pour revenir sur ce que nous disions sur l'institution, il est pas tendre avec l'institution Sullivan, enfin il s'est critiqué. Il était quand même dans cette institution, il acceptait l'Église.
Sullivan est radicalement prêtre, il est resté prêtre jusqu'au bout. « Mes lecteurs, ma paroisse », disait-il à la fin. Son œuvre est un cheminement personnel qui accompagne tous ceux qui veulent reconnaître cette voie du cheminement dans le peu à peu, dans l'avancée. Bon, certes, c'est une œuvre qui peut désarçonner ceux qui cherchent du confort, des certitudes, des questions, des réponses précises, mais il accompagnera volontiers les petits chrétiens d'incertitude, dit-il, cette compagnie des chercheurs, des marcheurs à l'étoile qui s'interrogent, s'interpellent, qui aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, peut dire si facilement, si nettement ce qu'il faut, ce qu'il en est de tout. Sullivan n'est pas là. Il dénonce les gros bras, disons, et il est très fraternel avec l'humanité en marche.
Donc il n'y a pas d'un côté l'Église sanctifiée et puis de l'autre le peuple, mais les lignes sont plus floues.
Bon, on peut dire que les lignes sont plus floues en ce sens qu'il dit que le royaume nous précède dans le cœur des hommes. Et la culture d'aujourd'hui, dans ses formes, dans le cinéma, le théâtre, la chanson, les livres, sont déjà des lieux de la présence humble, à ras de terre, dans les vies des hommes.
Mais pour revenir sur ce que vous disiez sur, effectivement, le christianisme de certitude, c'est peut-être le fait des convertis, ça, des gens qui rencontrent la foi et qui ont besoin précisément d'avoir... une sorte de catéchisme, réponse à tout. Et puis, on se rend bien compte qu'avec l'évolution de la vie spirituelle, il y a des questions qui arrivent. Est-ce que ce n'est pas finalement le fait de toute vie spirituelle ?
Bon, comme toujours, ce qui est important, c'est de respecter les ordres et les temps différents. Sullivan est parti du monde de certitude ferme, catégorique. Il a dû s'en dégager. En s'en dégageant, il accompagne tous ceux qui se cherchent eux-mêmes, qui cherchent une voie de liberté et une rencontre d'un Dieu d'interpellation dans le présent des vies. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres voies. Aujourd'hui, on dit que les plus jeunes, et c'est trop vrai, n'ont pas été marqués autant par le dogmatisme.
Et donc, ils le cherchent.
Ils cherchent des repères plus précis. Il est tout à fait normal que des jeunes recherchent des repères plus précis, qu'ils fassent leur route. Mais ça n'empêche pas que demeure aussi une quête de la subjectivité, la naissance à soi-même. Sullivan, il est en pleine harmonie avec cette requête contemporaine d'une liberté qui se lève en souveraineté, mais en même temps qui se garde bien d'être ce qui s'arroge la clé de l'être. Il n'en demeure pas moins que chez Sullivan, le vrai ressort de l'être est dans la croix, l'Eucharistie, le pain pour la route.
La spiritualité de Jean Sullivan, c'est le thème de la série que je vous propose avec Joseph Thomas, auteur du livre « Priez 15 jours avec Jean Sullivan » paru chez Nouvelle Cité. Joseph Thomas, nous avons dit que prier, c'est s'appauvrir pour rencontrer un Dieu pauvre, justement. Et Jean Sullivan associe aussi la prière à la liberté. Alors revenons avec vous sur le thème de la liberté. C'est quoi pour lui être libre ?
Être libre et souverain. Il associait volontiers la souveraineté à la liberté. Bon, on peut dire que l'œuvre écrite de Sullivan, elle a commencé à 50 et quelques années et elle s'est achevée à 66 ans avec sa mort.
C'est une trentaine de livres à peu près ?
C'est une trentaine de livres en 10-15 ans, 15 ans maximum. Donc c'est une œuvre de dernière partie de vie, une œuvre ramassée, une œuvre dense et un parcours d'intériorisation et de libération. Son œuvre n'est pas une œuvre de tête, elle est une œuvre de corps. Il a, dans la dernière partie de sa vie, réalisé qu'il y avait un long chemin pour accéder à la source vive que chacun porte en lui, qui est cette subjectivité consciente et pauvre à la fois, qui fait inventer son parcours dans la création, l'inventivité, dans un consentement aux incertitudes et à la pauvreté, mais en se laissant façonné par une petite joie increvable, comme il disait.
Donc, être soi, ça se travaille petit à petit, se libérer des gangues, d'un savoir qu'on nous a donné ou de certitudes pour avancer pauvre dans une voie qui est la nôtre et pas celle du voisin.
Pas facile de naître à soi. Et curieusement, Sullivan aime bien jouer de ce mot de la naissance à soi-même et dit « Bon, certes, je suis né en Bretagne, mais je suis né aussi dans les montagnes d'Engadin avec Nietzsche, mais je suis né aussi au bord du fleuve Kaveri, à la rencontre d'Henri Le Sault en
Oui,
Inde.
Il a été en Inde. Hein. Et donc, dans son parcours, ça a été important ?
Il a été important pour lui de retrouver ce vieil ami de séminaire qui s'appelait Henri Le Sault, moine à Kerkonan, qui était parti comme ermite en Inde. Mais à travers cette rencontre subjective d'une personne, ça a été la rencontre avec une autre posture dans l'existence, une autre manière de vivre le rapport à Dieu, non pas dans un bloc de certitude dogmatique, mais dans la vie, la religiosité qui pénètre toute l'existence. Nous sommes un tiers-monde spirituel, dit-il souvent.
C'est-à-dire
l'homme d'Occident est le tiers-monde spirituel, qui laisse Dieu loin de sa propre vie au lieu d'être soi-même ce lieu intime qui est le lieu de la présence de Dieu dans sa propre existence. Peut-être y a-t-il dans le christianisme traditionnel, et même certainement il y a, une veine intérieure, on pourrait dire mystique, qui a constamment habité le christianisme depuis toujours. Sullivan a fréquenté ce christianisme d'intériorité, il l'a mieux retrouvé avec Maurice Sindel, mais aussi chez Maître Eckhart et aussi en Inde.
Mais alors l'intériorité, c'est quoi ?
L'intériorité, c'est le point en moi qui dit notre Père, dit quelque part Claudel. Ce lieu où je suis moi-même dans une équivalence avec ce cheminement mystérieux de Dieu qui s'invente encore dans le présent. Il y a une sorte d'équivalence mystérieuse entre l'idée même de ce Dieu-là et l'âme. Ce point où j'existe avec Dieu en inventant ma vie dans le présent. Moi et mon Dieu, nous sommes un dans le cheminement et l'invention de notre voie quotidienne.
Joseph Thomas, l'intériorité, découvrir le point de rencontre entre Dieu et soi-même, beaucoup de personnes le vivent. Vous citez notamment dans votre livre « Eti Illesum », alors voilà quelqu'un qui n'était pas affilié particulièrement à une religion, même si elle était juive, et qui va vivre cette rencontre et qui a besoin de se retirer au plus profond d'elle-même pour écouter une voix. C'est un peu le même style, le chemin de Sullivan.
Il faudrait remonter jusqu'à Saint-Augustin. Hein. Il y a une large tradition de ce Dieu plus intime à moi-même que moi-même. On la retrouve chez Pascal, on la retrouve bien sûr éminemment chez la toute grande Eti Illesum. C'est la voix de Maurice Sindel aussi, c'est la voix de Maître Eckhart. Et Sullivan incarne bien ce christianisme mystique d'intériorité simple.
Et de liberté, parce que c'était le thème de notre entretien. La liberté, elle sourd de ça, de cette rencontre ?
La liberté, je dirais, c'est la souveraineté précaire. Souveraineté, je
reviens
sur ce mot.
Ça veut dire quoi, souveraineté ?
Oui, bon, alors, c'est vrai que chez lui, on pourrait se dire, tiens, ben pourquoi cette alliance entre liberté et souveraineté ? C'est une invitation à vivre sa vie dans une sorte de royauté intérieure. Je suis maître de moi, je suis à même d'inventer, de créer, de laisser surgir du neuf, je suis créateur et en ce sens, je ne vis pas ma vie dans un écrasement, dans une dépendance, mais je me laisse imbiber et surgir en moi cet advenu du neuf. En ce sens, je suis roi et souverain. Mais ça ne m'empêche pas de vivre le mouvement identique de précarité.
Oui, c'est pas de la toute-puissance. La souveraineté n'est pas de la toute-puissance.
Surtout pas de la toute-puissance. C'est en même temps le consentement à la fragilité et à l'incertitude. Curieuse alliance, une souveraineté précaire, c'est voilà tout Sullivan.
Alors, il parle de l'Évangile et il dit « Il est le livre insurgé. Le lire, c'est naître ailleurs. » Pour lui, j'ai l'impression que c'est une parole de feu qui déplace sans arrêt et qui justement nous emmène là où on ne sait pas forcément. Il y a une grande liberté hein, dans la parole de Dieu.
Oui, si l'on revenait au cœur de la religion chrétienne qui est la transmission de cette révolution de la foi qui vient non pas s'adosser aux religions traditionnelles, mais les subvertir, les renverser par cette présence de l'absolu dans l'infime, l'absolu dans la croix, dans la contestation de toute puissance et cette invitation à cheminer dans le renversement des certitudes pour une avancée créatrice.
Mais être créateur, c'est difficile, être créateur de sa vie.
La foi naît presque toujours d'un effondrement, aime-t-il à dire. Hein. Se laisser traverser par une rencontre, par un feu, par une lumière qui nous précède. Et il parle souvent de l'alléluia torrentiel qui le traverse, qui l'invite à, et nous invite aussi à notre tour à nous laisser traverser, parce qu'il voudrait que sans cesse nous nous laissions déposséder pour renaître. Nous naissons vieux, emmaillotés, et c'est sans cesse qu'il faut se laisser aller pour peut-être mourir jeune. C'est un peu ça la voie de Sullivan. Nous naissons vieux, il nous faut mourir jeune.
C'est un chemin de solitude, la liberté dont parle Sullivan, parce que mener sa voie, chercher ce qui est le plus juste pour soi, être créateur de sa vie, c'est sortir des sentiers battus.
Solitude et fraternité. Rien de plus fraternel que Sullivan. Il aimait bien ce mot. Il n'y a pas d'autre rencontre de Dieu que la rencontre de visage à visage. Et j'aime bien chez lui la manière dont il utilise le mot « salut ». Le salut étant, bien sûr, le langage traditionnel de la théologie, le salut sauvetage, mais beaucoup plus le salut salutation. Lorsque j'arrive, s'il est possible, à rencontrer un autre visage dans sa différence, dans son infinité. Et là, nous naissons à l'autre sans cesse et de plus en plus. Voilà le chemin d'une fraternité, d'une humilité et d'une rencontre toujours à faire.
Joseph Thomas, parlons avec vous de la naissance, car Jean Sullivan en parle beaucoup dans ses livres. Il dit « J'ai commencé ma vie par être vieux, je marche vers la naissance. »
Il faut une vie entière pour conquérir l'enfance.
Alors qu'est-ce que c'est que cette enfance ?
L'œuvre de Sullivan, c'est une sorte de psychanalyse debout d'un écrivain qui ramasse dans ses mots la nécessité de surgir comme sujet, mais pas comme sujet dominateur et écrasant, mais comme libre, joyeux, habité par la source vive qui est celle de sa propre enfance. Sullivan rappelle comment il a connu cette période où il était accordé au présent, accordé à l'instant.
C'est-à-dire enfant ?
Enfant, à Fontenegou, dans la ferme familiale, il a certainement vécu des moments de plénitude. Et comme à chacun, on peut avoir la nostalgie de ces moments de pleine présence à soi. Et peut-être n'y a-t-il d'autre parcours de vie que cette conquête progressive d'une nouvelle présence à soi qui ne soit pas un enfermement dans sa bulle, mais qui soit une coïncidence joyeuse et humble avec ce que l'on est et en même temps cette présence intime de l'autre au cœur de sa propre vie qui n'est pas autre chose que le nom de Dieu.
Et l'enfant est capable de ça ?
Je ne sais pas s'il y a une conscience pleine de l'enfant en tant qu'enfant, mais que la vie soit une marche, un peu à la manière de Nietzsche. J'ai envie d'évoquer les trois métamorphoses de Nietzsche. C'est un texte important où il dit, finalement, au départ, l'homme est un chameau qui porte les ordres qu'on lui donne. Et après, le chameau se transforme en lion, en affirmateur qui devient conquérant, qui voudrait imposer à son tour sa marque.
Qui a la vérité.
Mais que la troisième métamorphose, le dépassement du lion, c'est l'enfant. La finalité de l'humain, c'est cet accès, non pas à une enfance de soumission qui soit insipide et sans intérêt, au contraire, une coïncidence avec le plus vrai de l'être, le plus vrai de soi et cette intime joie d'une coïncidence avec Dieu au cœur de sa propre vie. C'est ça un peu l'enfant. Joli travail, travail long, travail de toute une vie, mais invitation au surgissement de la subjectivité joyeuse et humble à la fois.
Jean Sullivan a été formaté beaucoup quand il était jeune dans son éducation, parce que c'était l'époque, c'était la Bretagne. Et puis voilà, à l'époque, il fallait écouter, répéter parfois, il dit beaucoup ça. Et il dit que formater des individus, c'est une chose, et l'enjeu de toute vie, c'est de sortir de ce formatage. Et donc c'est ça, naître aussi à soi-même. C'est penser par soi-même.
C'est penser par soi-même, mais non pas d'une manière de pure rébellion. C'est vrai qu'il y a un côté rebelle chez Sullivan et quelquefois on a fait de lui le révolté, celui qui venait mettre à bas et critiquer tout ce que, par exemple, ses confrères prêtres s'échinaient à faire pour que la foi continue à être transmise. Mais il est rebelle, je pense, d'une autre manière beaucoup plus profonde et enfantine. J'aime bien de lui l'insistance sur le poème, l'évangile comme poème, c'est-à-dire non pas la foi comme un catalogue, mais dit-il comme une sève dans la nuit de l'arbre. Une sève dans la nuit de l'arbre. Donc quelque chose qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus fragile et qui se distille à travers les mille attentions au cœur de sa propre vie. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on se conforme à un ordre et qu'on devient une sorte de multitude blindée, unanime, qui se conforte d'être, d'avoir tel nombre, de faire telle chose. Non, c'est beaucoup plus au creux de chaque itinéraire qui doit retrouver sa voie dans la proximité des autres, à l'invitation et à l'interpellation de ce faible entre les faibles qui est devant nous, le Christ pauvre, qui est celui qui suscite la liberté à naître et à s'inventer.
Joseph Thomas, dans la Bible, on retrouve cette notion de naissance à soi-même, que ce soit Abraham, va vers toi-même, ou bien Nicodème qui demande à Jésus, voilà, quelle voie suivre, et Jésus lui dit, il faut naître, il te faut naître. Alors, pour Sullivan, comment arriver à naître au jour le jour dans la vie très concrète, naître jour après jour, qu'est-ce que ça signifie ?
La foi naît presque toujours d'un effondrement. C'est à partir de ce consentement à reconnaître ses fragilités et peut-être, en effet, cette nécessité de se défaire des certitudes et des blindages. Et l'attente de cet inattendu qui me permettra de devenir le plus vrai de moi-même. On marche beaucoup dans l'illusion. Une bonne partie de l'œuvre de Sullivan est un dégagement des illusions.
Il dit d'ailleurs que la prière, ça peut être le lieu par excellence de l'illusion.
La prière aussi peut être le lieu de l'illusion. Il n'y a rien d'évident à atteindre ce point du plus vrai de moi-même. Son œuvre est une sorte de psychanalyse, je disais.
Et pourquoi psychanalyse ?
Pourquoi psychanalyse ? Parce que l'éveil et le travail de la psychanalyse est une invitation à faire reconnaître en soi le sujet étouffé. La finalité, c'est de devenir sujet. Eh bien, être sujet, c'est naître à sa propre subjectivité, la reconnaître sans arrogance, reconnaître les failles qui nous constituent, reconnaître d'où nous venons, reconnaître les fausses pistes, reconnaître ce qui nous a empêchés d'être, revisiter mon héritage familial. Par exemple, dans le cas de Sullivan, c'est vrai que l'absence de son père, se reconnaître comme fils de tué, comme il dit, n'avoir pas connu son père.
Son père est mort à la guerre de 14.
Mort à la guerre de 14, il ne l'a jamais connu et il a été dans une extrême proximité avec sa mère jusqu'au moment où il s'est rendu compte que, à la mort de sa mère, qui semble s'être presque défaite de l'ordre moral et catholique qui avait été toute son existence, elle semble s'être désintéressée des consolations de la religion, comme on disait volontiers. Et ceci, cette étape, l'a amenée à, du coup, lui-même vivre une liberté intérieure. Ça a été un des moments de sa propre naissance. Et ensuite, la rencontre en Inde avec Henri Le Sceau a été une nouvelle étape de subjectivité et d'inventivité d'une voie moins dogmatique, plus rayonnante, transformant toute l'existence, et ainsi de petite naissance en petite naissance, de petite mort en petite mort, il se retrouve différemment, plus libre, plus pauvre, et invite à un christianisme de marche. C'est pas pour rien qu'il s'appelait de son vrai nom Jean Le Marchand, et on pourrait dire que la marche a été son itinéraire continu, le chemin sur lequel il invite tout chrétien. On peut dire que le christianisme d'aujourd'hui est une marche patiente, constructive, libre, inventive, pauvre, pouvoir s'émerveiller du présent et pouvoir porter en soi de manière légère, dans son quotidien tel qu'il est, la rencontre de Dieu qui se fait non pas d'abord dans les églises, mais d'abord dans la fraternité avec le plus proche.
Joseph Thomas, dans la tradition juive, le croyant est en marche continuelle, il est en quête perpétuelle. Et l'on retrouve ce thème de l'Exode dans l'œuvre de Jean Sullivan. La marche avait beaucoup d'importance pour lui. Je crois qu'il priait en marchant.
Bon, je ne sais pas s'il priait en marchant, toujours est-il qu'il marchait beaucoup. Il aimait bien aller dans la forêt de Rennes, lorsqu'il était sur Rennes, marcher, converser certains dimanches matins avec ses amis prêtres ou d'autres amis. Il marchait beaucoup, il est allé aussi marcher sur les pas de Nietzsche encore, dans le Tyrol et en Italie. La marche, besoin physique et besoin spirituel. La figure de l'errance le caractérise aussi. Il avait besoin de nous dire, comme Abraham, on n'en finit pas d'aller d'exode en exode et il faut trouver son bonheur dans cette déplantation permanente du présent pour inventer sa route, inventer la voie. Ce qui est magnifique, c'est qu'il est... Il est mort sur la route, d'une certaine manière.
Il a été renversé par une voiture.
Il avait déjà eu deux accidents importants et qui avaient été deux moments de proximité de la mort et de présence à soi d'une nouvelle manière. Et cette fin dans une marche à 66 ans qui vient en quelque sorte signer une œuvre qui ne s'arrête pas. C'est vrai qu'il disparaît, mais il invite à marcher à sa suite. Andiamo, qu'il signait souvent en utilisant le mot italien. Marchons, allons-y.
Il dit que la parole de Dieu déloge. Il dit que quand on lit la parole, quand on se laisse imprégner, on ne peut que être délogé et que ça nous élargit toujours.
Un Dieu qui n'élargit pas n'est pas le Dieu pour lui. C'est-à-dire le contraire de l'installation, en effet, le contraire du blindage, des sécurités qui ferment et l'appel créateur à inventer, à innover. Il fait partie de ceux qui sont des suscitants. Bon, aujourd'hui, au point où nous en sommes dans l'Église telle qu'elle est, c'est sûr qu'il y a des tendances qui voudraient marquer le retour aux certitudes sécuritaires. Bon, sans doute le faut-il pour un certain nombre de personnes, mais ce serait dommage et faux de taire cette interpellation de l'Évangile poème qui est devant nous. Cette invitation à l'inédit et à l'invention d'une rencontre toujours à faire, y compris sans doute dans l'entrecroisement mystérieux des courants religieux tels qu'ils sont.
Et pour ça, pour garder cet élan, cette incertitude, Jean Sullivan dit qu'il suffit de se laisser insuffler. Il parle de la roue, le souffle de Dieu. Il suffit de laisser le souffle de Dieu nous emmener.
Autant il y a peu de présence théologique, c'est pas du tout un théologien, Sullivan, c'est un raconteur d'histoire. Mais curieusement, dans ses dernières œuvres, il est beaucoup plus marqué par la présence mystérieuse du souffle qui nous devance. La présence du Christ aujourd'hui n'existe qu'à travers ce souffle qu'il ne veut pas nommer. Il dit, ne transformons pas l'Esprit-Saint en un spectre subtil. Non, il est un inspirateur insaisissable, présent-absent, laissons-lui la part d'absence, comme une invitation en creux, au cœur de nos existences, à laisser surgir de l'inédit et à inventer des voies nouvelles.
Oui, donc c'est quelque chose d'inconnu, cet esprit. Ça doit rester inconnu.
Ça doit rester inconnu, c'est ce qui nous ramène au centre mystérieux de la croix qui est le lieu de la gloire. C'est dans la faiblesse consentie qu'on reconnaît la gloire de Dieu qui vient vers nous dans son abaissement et qui nous suscite à nous lever encore.
Joseph Thomas, Jean Sullivan parle du souffle qui provoque l'inattendu, qui provoque la joie aussi, le rire. Il parle beaucoup de cette dimension joyeuse de la foi, Jean Sullivan. C'était un homme qui aimait l'humour.
Il aimait beaucoup l'humour. Je cherche, dit-il, je cherche un homme théologien, exégète, si possible, savant jusqu'aux cheveux. Et voilà qu'un glissement de terrain s'est produit, ajustement de faille, quelque chose. L'humour introduit dans le langage chrétien. Vienne le temps qu'il nous donne des vérités pour nos pieds, des vérités qui se puissent danser. Bon, c'est de la poésie, vous me direz, mais je crois en effet qu'il y a chez Sullivan, dans le poème, la quête d'un christianisme qui puisse répondre à la grande attente nietzschéenne et critique et athée, tout ce qu'on voudra, d'un Dieu qui dévirilise l'homme, qui l'annihile, alors que lui, il dit ben, « moi je reconnais dans cette source chrétienne, dans cet évangile de la faiblesse, il y a une puissance d'éveil, une puissance de liberté et un rire et une joie qui est le nom profond, subtil, de cette enfance qui est devant nous, de ce Dieu à naître qui est encore devant nous.
Et alors, vous pensez qu'il y a assez d'humour aujourd'hui dans l'Église ?
Ah, joli défi. Sans doute, bien sûr que nous n'en sommes pas là et qu'il est normal et bon que la pensée de Sullivan reste un appel en creux, quelque chose qui nous garde de nos sécurités blindées et de nos tristesses. C'est Xavier Gral, que Sullivan n'a pas connu, mais qui était quand même son contemporain, qui disait quelque part « cette chape de tristesse tombée sur le christianisme, d'où nous est-elle venue ?» Bon, je la garde comme question, Sullivan et Gral la gardent comme question, mais en même temps, je pense qu'il savait que c'est les sécurités qui blindent, qui attristent, et cette fragilité native et pauvre à l'invitation de la joyeuse liberté d'un Christ faible, présent, plus qu'on l'imagine déjà dans le présent des hommes, qui, lui, nous invite à nous laisser transformer par cette petite joie increvable, la petite joie increvable.
Et qu'est-ce qu'il peut amener, selon vous, de constructif aujourd'hui dans l'Église du XXIe siècle, Jean Sullivan ?
Un ton de liberté, d'inventivité et de création. Moi, je crois qu'il est en attente. Et que ça, j'espère que le centenaire qu'on va célébrer cette année sera une occasion de redécouverte de cette liberté, de cette arrogance, de l'évangile joyeux à même de rejoindre les hommes. Un petit peu à la manière de l'affrontement chrétien d'Emmanuel Mounier dans les années 50, avait interpellé l'Église, Sullivan, dans sa joie d'être et sa liberté, peut encore nourrir et inspirer.
Merci à vous, Joseph Thomas. Je signale que vous êtes l'auteur de « Prier 15 jours avec Jean Sullivan », paru chez Nouvelle Cité. Merci.